ですよね。おかしいおかしい、
Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir. Violence sexuelle en RDC, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, au moins 1244 femmes ont été violées au cours du premier trimestre 2010 à l'est de la RDC, soit près de 14 viols par jour en moyenne. Qu'est-ce qui explique la résurgence des viols massifs des femmes dans l'est de la RDC et que faire pour mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans cette partie du pays? Trois invités participent à cette émission. Professeur Gabi Mangou, coordonnateur national du programme de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en RDC, structure du gouvernement central. Professeur Mangou, bonsoir.
Bonsoir.
Eve Bazaïba, sénatrice MLC et présidente de la commission socioculturelle du Sénat, elle est en ligne. Madame Bazaïba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Jean-Paul Yaoui Dimaïzambi, doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université pédagogique nationale. Professeur Yaoui Di, bonsoir.
Bonsoir.
Pépémi Kouadou qui s'en gagne en province orientale, c'est un auditeur qui dit les groupes armés ont fait de la violence sexuelle une arme de guerre pour conquérir des espaces et surtout créer la zizanie dans les familles pour bien diriger, car après les viols, les familles se disloquent et les hommes se sentent diminués. L'une des solutions pour moi reste le rétablissement effectif de l'autorité de l'État pour bien faire appliquer la loi. Merci de nous suivre partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
De nombreuses personnes ont été victimes de graves violations de droits de l'homme dans plusieurs villages du secteur de Mpoki, à environ 85 km au nord-est du chef-lieu du territoire de Walikale. 150 femmes au moins ont été violées alors que les hommes et les enfants ont subi différentes sortes de violences. Ces atrocités se sont déroulées entre le 31 juillet et le 2 août dernier, lorsque des hommes armés ont assiégé plusieurs villages dans ce secteur. Des éléments soupçonnés appartenir au FDLR et Mai Mai Sheka sont cités comme auteurs de ces atrocités. Les autorités administratives locales ont confirmé ces informations, même si elles disent n'avoir pas de bilan précis à cause de l'enclavement de ces villages. Le point avec Sifa Magourou.
Selon les organisations locales des droits de l'homme, ces personnes ont subi plusieurs formes de violences, notamment les viols collectifs, les travaux forcés, des tortures et autres. Les villages visés sont ceux du groupement Dihana, notamment Pofi, Kembe, Robonga, Ruvungi, Tueno, Bunyampuri, Braza et bien d'autres. La même source précise qu'au moins 154 femmes ont été enregistrées comme ayant subi le viol. Elles suivent actuellement un accompagnement médical auprès des ONG IMC, International Medical Counseling, ainsi que Il Africa. Mais beaucoup préfèrent garder le silence. Un activiste de Walikale qui a requis l'anonymat témoigne.
Jusqu'à maintenant, on est en train de répercuter nos victimes et le nombre est assez énorme et qui demande, n'est-ce pas, l'intervention et l'implication des autorités locales, tant civiles que militaires, en fait de sécuriser cette population victime de ce viol. C'est que toute forme de viol a été commise, des enfants au-delà et même les vieilles femmes.
Selon toujours notre source, la plupart des hommes ont subi des travaux forcés et ont été obligés de transporter des butins des assaillants sur de très longues distances. Les autorités locales se disent préoccupées par ces situations. Goma, Sifa Magourou, Radio Okapi.
Merci Sifa Magourou. Professeur Gabi Mangou, vous venez de suivre ce reportage. Qu'est-ce qui explique d'après vous la résurgence des viols massifs dans l'est de la RDC?
Oui, évidemment, nous avons tous été informés de ce qui arrive. Ce qui arrive doit être certainement lié au fait que les efforts du rétablissement de l'État et la fin de la guerre, qui fait en sorte que l'État est en train de s'installer dans toutes les provinces, et qu'on est en train de démanteler tout le groupe armé qui était caché. Et donc, c'est par réaction, en termes de lâcheté, ayant été désarmés, ayant perdu le terrain, c'est tout à fait normal qu'ils puissent se récupérer. Et vous voyez déjà les distances, c'est très loin dans la brousse qu'ils vont aller prendre en otage de villages entiers et des communautés et faire ce qu'ils ont fait. C'est vrai, d'après les informations, aujourd'hui, le nombre a fort augmenté. On est plus à 154 femmes. Cet après-midi, déjà, on a voisiné les 200 femmes qui ont déclaré avoir été violées dans la situation et le nombre ne fait que grandir. Donc, c'est lié, au fait que tous ces groupes armés sont en train de perdre, sachant qu'ils sont en train de perdre, ils doivent donc se faire entendre autrement que par les armes. Deuxième élément, c'est aussi, ils profitent en fait de étant donné que les violences sexuelles constituent aujourd'hui l'enjeu majeur du combat du gouvernement pour la consolidation de la paix, en fait, c'est pour narguer le gouvernement aussi. Là aussi, c'est une autre situation, pour narguer le gouvernement. Et je pense que c'est des situations qui étaient un peu prévisibles dans le processus de la consolidation de la paix que le gouvernement a mis en place et qu'on est en train de gérer. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là.
Madame Eve Bazaïba, vous êtes sénatrice MLC, vous avez suivi le professeur Mangou. Comment vous expliquez la résurgence des viols massifs à l'est du pays?
Oui, merci pour la question. Le bilan, les rapports que nous venons d'entendre est effrayant et plus que révoltant. Je dois d'abord vous dire que ces statistiques-là, c'est seulement dans les milieux connus. Si on pouvait accéder dans les milieux non accessibles aujourd'hui, je crois que il y aurait une augmentation du nombre de 1244 femmes violées par rapport pour ce premier semestre. Il y a aussi la loi du silence à cause de la peur, des représailles, si on connaît les violeurs, la honte, l'humiliation de la famille, la crainte d'être rejetée, etc. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de cas de victimes de violences sexuelles qui ne sont pas connues. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Et pourquoi il y a résurgence? Justement parce qu'il y a l'impunité, la faiblesse de l'autorité de l'État. Je ne vais pas entrer en profondeur, tout le monde comprend ce que ça signifie. Et parce qu'aussi, nous continuons jusqu'à présent à mettre beaucoup de moyens, de paquets, d'argent, d'énergie, à ne gérer que les conséquences, au lieu de s'attaquer aux causes des violences sexuelles faites à la femme. Voilà ce qui explique la résurgence de ces violences aujourd'hui.
Mais vous avez suivi le professeur Mangou dire par contre que, contrairement à ce que vous dites, hein, vous parlez de la faiblesse de l'autorité de l'État, mais lui dit plutôt qu'il s'agirait d'une réaction normale de ces groupes armés qui font face à une pression de la part de l'État qui tend à étendre son autorité.
Oui, mais justement, cette réaction-là normale, entre guillemets, c'est une réaction anormale, parce qu'il s'agit des personnes, je ne sais pas, leur psychologie se présente comment. C'est une réaction qui se fait vis-à-vis du gouvernement, les individus des groupes incontrôlés qui vont défier l'État, justement parce qu'il y a une faiblesse de l'État, face à un État fort qui tient compte de la justice, qui applique réellement cette fameuse tolérance zéro. On ne peut pas défier l'État, les individus ne peuvent pas défier l'État jusqu'à ce niveau-là, parce que là, si on parle en termes de défis, défier l'État, ce n'est pas seulement l'État congolais, c'est même au niveau des internationaux, parce que le rapport vient d'être nommé, présenté par une institution internationale, et nous sommes là au désarroi, tout le monde, que ce soit la République démocratique du Congo et tous les partenaires au développement qui nous aident à lutter contre ces fléaux.
Professeur Jean-Paul Yaoui dit, vous êtes psychologue, comment vous abordez ce problème?
Merci pour la question et pour l'invitation. Vous savez, nous sommes en train de parler des violences sexuelles, mais violences sexuelles, c'est un aspect des violences. Et vous savez, à l'est du pays, nous sommes là dans une zone de violence. Et cette violence-là se ramifie. C'est prendre des différentes orientations, entre autres l'orientation sexuelle. Et nous devons savoir ceci, que les agresseurs, c'est les gens qui sont en train de violenter nos mamans, nos filles et nos enfants. Ce sont des agresseurs. Et ils doivent nécessairement avoir des objectifs. Entre autres, la destruction de nos familles. Lorsque une famille est détruite, donc il y a séparation, puisque la famille doit d'abord vivre l'unité entre ses membres. Mais lorsque la famille est détruite, il y a séparation et comme on ne peut pas combattre ensemble, on sera pendu séparément. Et lorsque la famille aussi est détruite, c'est notre société aussi qui paye les frais. Parce que la famille, c'est le moyen de la société. Et c'est que nous devons beaucoup plus considérer cet aspect psychologique qui met l'accent sur l'objectif de l'agresseur. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi, dans sa violence, il s'oriente vers le sexe? Pour quelle raison? C'est dans ce sens-là, pour ma première intervention, que je pense orienter ma réponse.
Donc, professeur, vous donnez pratiquement raison à ceux qui pensent que le viol est aujourd'hui utilisé comme arme de guerre.
Oui. Ce sont les agresseurs, ce sont nos agresseurs. Ils utilisent le viol, la violence sexuelle comme étant une arme. Donc, une manière de dire, écoutez, nous allons narguer. Mais maintenant, moi, je ne peux pas dire qu'on nargue l'État. Moi, je dis on nargue la population, on nargue nos familles, on détruit nos familles. Parce qu'on veut que le Congrès ne puisse pas avoir des atouts nécessaires pour sauvegarder son espace géographique. Lorsque quelqu'un est détruit mentalement, il est empêché à déployer des efforts nécessaires pour se sécuriser et sécuriser sa société. C'est ça l'objectif, affaiblir la famille, affaiblir les Congolais.
Professeur Mangou, vous avez suivi la sénatrice Bazaïba, qui n'est pas du tout d'accord avec vous, qui pense plutôt qu'il s'agirait là de la faiblesse de l'État qui se manifeste.
Oui, cela dépend de la perspective de laquelle on se situe, parce que la question de violence sexuelle, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question qui date de longtemps, c'est maintenant après des années, 10-15 ans d'années que nous nous sommes rendus compte et on commence à en parler. Premier élément. Deuxième élément, c'est que la destruction de l'autorité de l'État donc, qu'il évoque n'est pas une situation factuelle d'aujourd'hui. C'est bien une évolution, l'évolution d'une situation que probablement le gouvernement actuel ont trouvé. Et donc, qu'il faut gérer nécessairement. Donc, c'est pas l'occasion de dire que l'État a failli. L'État avait failli depuis longtemps, mais là, on est en train de reconstruire. Et en termes de reconstruction, il y a tout un processus de consolidation de la paix. C'est-à-dire, essayer de mettre fin à la guerre, essayer de reconstruire le pays. Et c'est dans ce sens que le gouvernement, dans son programme, le programme qu'il a mis en place, notamment à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale des violences basées sur les genres, a prévu 5 composantes. La composante dans la lutte contre l'impunité, vous avez suivi et vous voyez que tout le travail est en train de faire pour réhabiliter les offices de justice, pour pouvoir régler, pour renouveler le corps des magistrats, vous avez suivi dernièrement tous les recrutements. Il y a le volet protection et prévention. C'est tout le travail que nous faisons sur le terrain sur la protection des civils aujourd'hui avec les partenaires. Il y a le volet de la réforme des services de sécurité, de la police, des services de renseignement. Toutes ces questions des situations qui se passent à Walikale aujourd'hui, si les services de renseignement étaient au point comme il fallait, on serait informé plus tôt et on réagirait. Donc il faut réformer tout cela. Et il y a le volet de l'assistance multisectorielle en termes d'intervention, d'accompagnement de toutes ces personnes, comme on le fait maintenant actuellement à travers les cliniques juridiques et le travail de consigne qui est en train de se faire. Et puis il y a le volet de la gestion des informations. Nous gérons aujourd'hui les informations. C'est vrai, si aujourd'hui on parle de 1280, on parle de 179 et 200 aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des structures qui sont en train de gérer les informations sur la question des violences. Hier, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a.
Donc, il y a une évolution en termes de gérer la question des violences sexuelles. Et donc, on est en train d'aller vers ce qui peut régler ce problème. Et plus tard, quand nous discuterons, nous verrons qu'il y a tout un plan d'action nationale qui est mis en marche pour pouvoir mettre fin aux violences sexuelles. Ce n'est pas une question qui va trouver des solutions totalement aujourd'hui, mais qui resterait à long terme dans l'évolution de la société congolaise dans les jours à venir, et qu'il faut gérer selon un plan d'action national.
Madame Bazaïba, vous venez de suivre le professeur Mangou, êtes-vous apaisée?
Oui, mais, monsieur le journaliste, ce n'est pas un problème d'apaisement. Vous avez entendu ce que le professeur Mangou a parlé en termes de responsabilité. Lorsque je parle de la faiblesse de l'autorité de l'État, je ne pointe pas les individus, je pointe le système, l'organisation du pouvoir pour la protection de la population. Mais le pouvoir d'aujourd'hui, le pouvoir d'hier, en tout cas la continuité du pouvoir d'aujourd'hui, est venue avec la guerre de 1997 à ce jour, lorsque on a pris le pouvoir avec les armes, il s'en est suivi les violences sexuelles. Vous avez suivi ce que le professeur Mango a dit en termes de reconstruction. Et toute cette partie de reconstruction se situe à quel niveau? C'est dans la gestion des conséquences. Dans la gestion des femmes violées, on gère l'information pour récolter combien de femmes on a violées aujourd'hui, combien on avait violées hier, et probablement il en faut combien on fait la formation. Et puis on voit ces femmes violées, comment est-ce qu'on va les amener à la justice, ces femmes violées, comment est-ce qu'on va les prendre en charge avec les cliniques juridiques, donc la prise en charge psychologique et judiciaire, etc. Ça se situe dans la partie de la gestion des conséquences. Est-ce que le professeur Mango peut nous parler des actions qui sont organisées, des actions de grande envergure en termes de lutter contre les causes des violences sexuelles? Les causes apparentes actuellement, on va parler de la guerre. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour mettre fin à la guerre? Il y a des coins de la République où non seulement le gouvernement central n'a pas la mainmise de la puissance publique, il n'y est pas, mais aussi et surtout l'implication de certains animateurs du gouvernement central qui alimentent les milieux avec les armes, l'exploitation illicite de nos ressources et tout ce que, qui s'ensuit avec la collaboration des étrangers. Si on parle en termes de responsabilité des violeurs, vous trouvez les violeurs tant dans les rangs de nos forces armées de la République, incontrôlés ou contrôlés, même au niveau des groupes armés étrangers. Voilà pourquoi je parle de la faiblesse de l'État depuis un certain temps. Pourquoi on ne peut pas mettre des actions de grande envergure en termes de causes? Quelles sont les actions mises en place pour qu'en amont, on puisse faire en sorte qu'en aval, on limite ne fût-ce que diminuer les violences sexuelles? Aujourd'hui, le rapport qui est donné, il n'y a que l'augmentation. 14 femmes violées par jour et rien que la situation connue, sans citer les cas inconnus.
Merci, madame.
Et on ne peut pas y accéder. Voilà pourquoi je parle de la faiblesse de l'État, parce que c'est de la responsabilité de l'État de sécuriser sa population, mais l'État est impliqué d'une manière ou d'une autre à travers certains animateurs.
Merci, madame. Professeur Yaouidi, vous avez évoqué tout à l'heure la destruction de la famille, de la société comme objectif des auteurs de ces viols. Mais quel type de Congolais, professeur, aurons-nous dans les 20, 30 prochaines années avec ce phénomène?
Ah, mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'espoir. Aussi longtemps que nous ne prenons pas soin du mental de l'homme qui doit nécessairement gérer la société, construire cette société, c'est difficile. Vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire que pour ces femmes, les personnes violées, il y a un accompagnement médical. Mais on ne parle pas de l'accompagnement psychologique, c'est-à-dire l'ignorance totale de ce que l'être humain est, du point de vue de son unité, du point de vue de sa totalité. Si nous évoluons dans cet environnement, une famille, un enfant qui est en train de voir sa mère être violée en sa présence, comprenez ce qu'on est en train de créer dans cet enfant-là. Alors maintenant, le professeur Mango intervenait pour parler d'une certaine réaction. C'est tout à fait normal. Dans une situation où les agresseurs sont poursuivis, et
ils ne peuvent peut-être aussi narguer, hein, dans une certaine manière, narguer l'État. Mais si nous prenons cette considération-là, nous allons nous limiter à un aspect qui est purement peut-être politique. Mais s'il faut considérer l'aspect social, c'est-à-dire là, je suis en train de dire que réellement, ces gens-là visent à ce que nous puissions évacuer, quitter seulement le lieu, les laisser la main, les laisser cet espace-là pour qu'ils puissent les gérer. Mais nous, nous disons que nous devons nécessairement manifester une certaine force mentale pour que réellement nous puissions nous organiser. Parce que les gens qui sont à l'Est, ils n'ont pas besoin qu'on leur amène des médicaments, mais ils ont besoin de la paix. Et la paix réelle qui doit être instaurée, une paix au niveau de la famille, une paix au niveau de la ville, une paix au niveau de notre société en général.
Alors, quel type de prise en charge psychologique, hein, concrètement, comment ça pourrait se faire?
La prise en charge psychologique ne doit pas seulement concerner les gens violés, elle doit aussi concerner les violeurs. Vous voyez? Alors, nous avons, heureusement, avec la MONUSCO, il y a un certain encadrement des violeurs. Il faut nécessairement qu'on associe aussi les psychologues pour dire, parce que, et ils pensent, lorsqu'ils sont en train de violer, ils trouvent qu'il y a une certaine réjouissance, mais ils peuvent aussi contracter des maladies. Donc, ce n'est pas seulement on fait du mal à l'autre, à celui qui est violé, mais on se fait aussi du mal. Donc, il faut nécessairement une certaine sensibilisation psychologique de façon à ce que chacun puisse arriver à prendre conscience de ses propres actes qui ne doivent pas être aussi destructeurs de son propre unité, de sa propre unité psychologique.
La RDC n'est pas la capitale mondiale du viol. C'est en ces termes que le ministre de la Communication et Média a réagi en rapport avec ces viols au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi. On écoute le ministre Lambert Mende.
La République démocratique du Congo, capitale mondiale du viol, comme l'a dit ce journaliste de France 24, nous avons répondu. Il s'agit de faits. Ici, les faits sont actés. Nous n'avons pas à nous fâcher contre un journaliste parce qu'il a eu accès à des chiffres qu'il a peut-être mal interprétés. Nous répondons en mettant sur la place publique les chiffres qui sont à notre disposition, qui indiquent que nous ne sommes pas la capitale mondiale du viol. La capitale mondiale du viol, c'est là où il y a le plus grand nombre de cas, le taux le plus élevé des cas de viol. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas, par recherche du sensationnel, jeter une fausse image sur un pays qui n'a pas objectivement cette image-là.
Professeur Gabi Mangou, vous avez fait allusion tout à l'heure à un plan national de lutte contre les violences sexuelles. Quelles sont les grandes articulations de ce plan?
En fait, je vais tout de suite répondre pour dire que moi, je comprends la préoccupation de l'honorable Vazaïv, je partage même. Mais je dis la démarche par rapport, le gouvernement a la même préoccupation. Mais par rapport à cette préoccupation, la démarche du gouvernement est d'ordre holistique.
C'est-à-dire
que la question des violences sexuelles ne doit pas être traitée en elle-même. Ce n'est pas une question isolée. C'est une question qui est liée
globale,
qui est liée à la société, à la manière de vivre et à l'évolution d'une société. Et donc, aujourd'hui, parler des causes et des conséquences, c'est voir comment une société a évolué. Et par rapport à l'évolution de notre société congolaise, on se rend compte qu'effectivement, et c'est ça le plan d'action que le gouvernement a mis en place, que le vrai problème de violence sexuelle, c'est d'abord le problème de fait du désordre qui a élu domicile dans la société. En fait, c'est l'inversion des valeurs, tout le problème d'une mauvaise interprétation des traditions, tout le problème de mal vivre en termes de culture. La guerre, effectivement, n'a été qu'un prétexte. Un prétexte historique utilisé par les agresseurs qui ont transformé finalement ce qui était déjà exploitation de la femme comme arme. Et donc, on a évolué, vous voyez que c'est une évolution dans une société. Et on est allé aujourd'hui, si on dit, on répond à la question de la mentalité, donc il faut mettre en place un programme à l'interne. Et là, on a dit, il faut régler le problème de la mentalité du rapport des hommes et des femmes dans la société. Les rapports sociaux de sexe sont toujours aujourd'hui des rapports de pouvoir. Et donc, le seul moyen de le résoudre, c'est de mettre en place une politique nationale genre. Une politique nationale qui puisse permettre autant aux hommes qu'aux femmes de pouvoir se considérer comme des personnes égales, de pouvoir vivre normalement dans une société. L'État a mis en place cette politique nationale genre. Et par rapport à cette politique nationale genre, pour répondre alors à la question urgente de violence sexuelle qui exige des réponses prioritaires, l'État a mis en place la stratégie nationale de violence basée sur le genre, dans lesquelles il y a comme action une sorte de stratégie nationale de violence basée sur de violence sexuelle. Et là-dedans, le plan d'action du gouvernement a 5 étapes. C'est d'abord un plan d'action à court et moyen terme et un plan d'action à long terme.
Et à ce jour, concrètement, professeur, qu'est-ce que vous avez déjà fait?
À ces jours, par rapport aux violences sexuelles, ensemble, le gouvernement ne travaille pas seul, il travaille avec les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies. À l'heure actuelle, on a créé une basket fund, donc un fonds, sur tous les aspects, à la fois en termes de consolidation des traitements de causes et des conséquences des violences sexuelles. Et depuis décembre 2009, un programme d'action est mis en marche au niveau de 5 provinces. On a d'abord vu les provinces où il y avait la guerre. Donc le Katanga, le Nord Kivu, le Sud Kivu, la province orientale et un peu le Maniema. Et là, le travail est en train de se faire. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de nos ONG, des activistes qui sont sur terrain, qui donnent des informations et qui suivent, qui accompagnent les femmes. En fait, ces activistes sont aujourd'hui pris en charge par le plan d'action du gouvernement.
Professeur, il y a cet auditeur d'Allemand de Kisangani en province orientale qui dit « Pourquoi les victimes de violences se trouvent en grande partie à l'est du pays? N'y a-t-il pas des hommes politiques qui tirent profit de cette situation ?» L'honorable Bazaïba est revenu presque sur le même problème.
Il a raison. Je crois que la compréhension peut être pertinente par rapport à l'évolution de la crise.
Donc il y a des politiciens qui tirent profit de cette situation.
Étant donné que la guerre est liée au fait des intérêts de quelques individus politiques.
Honorable Bazaïba, vous avez suivi le ministre Lambert Mende, la RDC n'est pas la capitale mondiale du viol. Comment vous percevez cette réaction?
Et justement, avec un sursaut d'orgueil patriotique, il a dit que la RDC n'est pas une capitale mondiale du viol. Malheureusement, c'est ça la vérité. Une femme violée pour moi, une seule femme violée, c'est trop. Parce que le viol, c'est la destruction de toute une vie, la destruction de tout ce que je peux expliquer, de toute une famille, de toute une société, de toute une communauté. Qu'on donne un rapport sur 1244 femmes violées, rien que pour un trimestre. Et actuellement, au moment où il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu, l'énergie et tout ce qu'il y a comme agence des systèmes des Nations Unies, des partenaires au développement, la République démocratique du Congo elle-même qui se bat pour lutter contre ce fléau, on arrive à ces chiffres-là. Malheureusement, c'est ça la vérité en face. Au lieu de faire un discours, de dénoncer ce point de vue, il faut plutôt aller sur le terrain pour ouvrir. Je vous parle depuis Kisangani aujourd'hui. Je ne suis pas seulement à Kisangani, dans les coins et les coins de toute la ville de Kisangani, mais il faut entendre les dénonciations en termes de violences sexuelles, et puis il faut entendre les désarrois de la population pour savoir avons-nous un gouvernement. Avons-nous les leaders sur qui nous pouvons compter? Parce que tout passe par les décisions politiques. Voilà pourquoi je dis, c'est vrai, le ministre s'est dénoncé par le sujet patriotique, mais ce sont les faits qui sont là, en face de nous, et nous devons plutôt faire en sorte que ce défi-là soit écarté.
Honorable Bazaïba, il y a cet internaute maître Népangui qui dit ce qui a viol, mais beaucoup de cas sont fictifs, les ONG médiatisent ce viol juste pour avoir les financements.
Oui, vous pouvez dire beaucoup de cas sont fictifs. Mais le cas fictif, vous allez attendre, vous allez trouver ces femmes qui ont connu des fistules, ce sont des cas fictifs. Vous allez à Goma, hein, où il y a le collectif qui lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, qui est en train d'héberger les femmes violées, vous allez parler des cas fictifs. Je suis à Kisangani, vous allez parler des cas fictifs. Non. On peut parler de chiffres, je vous ai déjà dit, une femme violée, c'est trop. Les ONG gonflent, peuvent ne pas gonfler, et la vérité est là. Quelle est la situation de ces femmes qui vivent les fistules? Des enfants de 3 ans, de 8 ans, des vieilles dames de 70 ans. C'est toujours les ONG qui font pour chercher le financement. Alors, tous les jeunes vieux font ça pour chercher le financement. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Qu'est-ce que lui, ses compatriotes, fait? Peut-être qu'il y ait plus de plus qu'un seul cas, au moins nous serons en paix.
Professeur Yahoui dit à cet auditeur Bongolo Ngondo Joël de Mbandaka l'Équateur qui pose la question, est-ce que cette moyenne de 14 est exacte, car même dans les provinces où il n'y a pas de groupes armés comme l'Équateur, il ne se passe pas un jour sans que même une fillette soit violée. Chimanga Koko de Mbandaka, toujours à l'Équateur, pourquoi les violences sexuelles sont devenues une situation courante dans notre pays?
Merci pour la question de cet ami-là. En fait, ici, nous abordons les cas de violences sexuelles au niveau de l'Est, parce qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de cas de fréquences de viols. Mais ça n'exclut pas que dans notre pays, qu'il n'y ait pas des endroits où il y a des violences. Parce que la violence, l'inquiétude. Vous voyez, l'inquiétude, c'est
coutumière,
là, constitue aussi une violence. Et dans notre pays, dans notre étendue de notre pays, il se pratique ce genre de choses dans certains milieux aussi. Et il y a aussi ce que je peux évoquer comme les mariages forcés. Les mariages forcés constituent aussi une forme de violence sexuelle. Les harcèlements sexuels, et puis l'exhibitionnisme sexuel, les filles qui s'habillent en montrant les parties intimes, ça constitue aussi c'est une forme de violence sexuelle. Donc, cela veut dire que ce n'est pas seulement lorsque nous parlons de violence sexuelle à l'est du pays, cela n'exclut pas les violences dans d'autres coins du pays. Mais c'est question seulement de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Vous savez, nous, le mal du Congolais, c'est quoi? Lorsqu'on avance une idée, on s'empresse à contredire. Mais ce qu'il nous faut, ce n'est pas contredire ce que l'autre dit, c'est plutôt réfléchir. Mais pourquoi il a utilisé tel mot et pas tel autre mot? Pourquoi il nous dit ça? Que nous réfléchissons pour trouver une solution. Cette question de violence sexuelle, ça ne fait pas plaisir à parler de ça. Hein? Les gens, même les personnes violées, nous écoutent, mais ce n'est pas facile à supporter aussi. Alors il faut nécessairement que nous soyons sérieux. Malheureusement, nous ne montrons pas que nous sommes sérieux. Moi, j'ai toujours dit cela. D'ailleurs, dans mon livre, je l'ai dit, les Congolais ne se prennent pas et ne prennent rien au sérieux. Malgré ses bonnes intentions, malgré les humiliations qu'ils subissent là, donc il n'arrive pas, il n'est pas prêt à être sérieux, il fait de la médiocrité son cheval de bataille. Donc, nous sommes dans une situation de la destruction de notre société, nous sommes dans une situation de la destruction de nos familles, chacun de nous doit être préoccupé. Il ne faut pas trouver de bouc émissaire, mais nous devons dire que nous devons maintenant avoir des stratégies pour que réellement nous puissions trouver des solutions face à cette situation-là.
Violence sexuelle en RDC, selon le HCR, au moins 1244 femmes ont été violées au cours du premier trimestre 2010 à l'est de la RDC, soit près de 14 viols par jour en moyenne. Qu'est-ce qui explique la résurgence des viols massifs des femmes dans l'est de la RDC et que faire pour mettre fin à ce problème qui prend de l'ampleur dans cette partie du pays? On se retrouve juste après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081-890-66-38 ou encore par SMS au 081-05-15-778.
Que faire pour mettre fin au phénomène de viol massif qui prend de l'ampleur dans la partie est du pays? Sécuriser toute la partie est de la RDC et mettre fin à l'impunité sont les seuls moyens pour résoudre ce problème. Ces propos sont de Janine Ndangou, présidente de l'association Encadrement des femmes indigènes et ménages vulnérables au Nord Kivu. Janine Ndangou pense que l'État doit prendre ses responsabilités pour arriver à éradiquer ce phénomène. On l'écoute au téléphone de Kevin Côté.
Nous sommes en train de nous poser la question, comment est-ce que franchement les violences sexuelles ça se sentit comme ça concernant les femmes? Ce n'est même pas un mois à Walikale par exemple. Vraiment, ils sont des cas, franchement, on a violé beaucoup de femmes. Il est ce qui s'est passé à Beni. À Beni, c'est pire. Allez à ma fille, madame. C'est très sérieux. Nous ne savons même pas, comme je viens de le dire, même ici à Beni, il y a beaucoup de cas. Donc, sécuriser ces milieux vraiment, ça sera vraiment apporter le bonheur chez la femme de l'Est du Congo. Tout ce que ça passe sans titre du jour au jour. Mais je crois que si on sécurisait les milieux, je crois qu'on pouvait remédier à la situation actuelle.
Professeur Yahoui dit, Jean-Paul, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université pédagogique nationale. Sécuriser le milieu et punir sévèrement, c'est Madame Janine Bangou qui le dit, par au-delà de ces aspects, professeur, que faut-il pour éradiquer les violences?
Oui, Monsieur Kabila disait que nous devons nous prendre en charge. Nécessairement, chaque Congolais partout où il est, ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser pour se prendre en charge et bouter dehors
ceux qui nous agressent. Et ceux qui nous agressent sont là et ils sont connus. Donc il faut nécessairement que nous puissions nous organiser partout, les églises, au niveau des quartiers, au niveau des églises, au niveau de nos différentes structures. Chacun de nous doit prendre conscience. Nous ne pouvons pas manifester une certaine naïveté. Nous ne pouvons pas manifester une certaine indifférence vis-à-vis des choses qui nous arrivent. Nous ne pouvons pas manifester une certaine résignation. C'est l'image que nous projetons aux autres qu'ils permettent à ceux qui adoptent ces comportements, ces types de comportements à notre égard. Donc nous devons aussi changer, soigner notre personnalité, puisque notre personnalité pose problème.
D'ailleurs, donc, professeur, d'ailleurs, il faudrait nous prendre en charge parce que d'une manière ou d'une autre, on est concerné par ce problème.
Mais tout à fait, oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de parler de ces violences, c'est-à-dire que c'est un problème qui concerne l'ensemble de notre pays. Et lorsque nous parlons de l'ensemble de notre pays, c'est-à-dire que notre pays est en crise. Qu'est-ce que plus mieux la liste du pays puisse connaître cette situation, il y a une crise sociale. Et cette crise sociale ne concerne pas seulement l'Est, ça concerne l'ensemble de notre pays. Et chaque Congolais doit prendre conscience de cela pour que réellement nous soyons forts, que les gens puissent percevoir en nous de la force et ils ne peuvent pas venir nous narguer dans notre terre, dans notre pays.
Deux auditeurs professeurs qui s'adressent à vous, Robert Baomé de Bukavu, ce qui vous tend que l'on ne mettra pas du sérieux dans le traitement des dossiers des violences sexuelles, elles ne prendront jamais fin. Choma Morley, il est à Kisangani en province orientale. Cette augmentation des violences est justifiée par l'absence de l'autorité de l'État dans ces milieux et l'impunité.
Oui, mais il parle de l'absence de l'autorité de l'État. Moi, je parle de l'absence du Congolais. Le Congolais est absent de lui-même et les gens le perçoivent. Quand nous parlons de l'État, mais l'État, c'est qui? Chacun de nous doit s'organiser là où il est. Mais pourquoi on va venir envahir tout? Autrefois, je suis dit, des gens qui se sont venus dans une localité, ils ont pris ces 150 personnes, on les a amenés dans la forêt, vous voyez, au vu et aussi de tout le monde. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est-à-dire que nous devons chercher peut-être de pointer d'un doigt accusateur l'État, mais chacun de nous doit s'organiser pour dire que fini avec ça. Ça ne fait pas quand même l'honneur du Congo. Lorsqu'on parle du Congo comme étant capitale du viol, ça ne fait pas honneur, ça énerve et ça révolte.
Professeur Gabi Mangou, vous êtes coordonnateur national du programme de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre en RDC, structure du gouvernement central. Qu'est-ce que vous avez ajouté, professeur, par rapport aux efforts, à ce qu'il faudrait apporter comme solution pour éradiquer
Je pense que la question des violences ne doit pas être traitée comme une question isolée, à part, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on associe la question des violences sexuelles à celle du VIH-SIDA, de la mortalité maternelle et infantile, on se rend compte que le vrai problème de notre société, c'est le rapport social, l'ensemble des rapports sociaux des sexes entre les sexes, qui continuent à être des rapports de pouvoir. Le jour où, quand les gens disent l'État perd de l'autorité, est-ce que cet homme qui le dit, quel est le regard qu'il a sur la femme qui est à côté d'elle, qui est en face d'elle? C'est le regard de possession, c'est le regard d'exploitation, et c'est ça qui détruit la société. C'est ça qui est à l'origine des violences sexuelles. Donc, on peut beau dire, faire des discours, tant qu'au niveau de la société, à quelque niveau que l'on soit, on ne prendra pas en conséquence le fait que les rapports sociaux de sexe doivent être des rapports d'égalité, doivent être des rapports de prise en compte des uns et des autres, les violences sexuelles existeront toujours.
Mais professeur, peut-on mettre en face de quelqu'un qui a faim, qui est pauvre, qui est mal payé, toutes ces théories que vous avancez?
Mais ce qui est beau, c'est que la preuve en est que le viol n'est pas commis que par des pauvres, par des bandits. Le viol est commis dans notre société, en pleine ville. Le professeur vient d'évoquer tout à l'heure des cas. Vous en avez dans l'enseignement, vous en avez dans la rue, vous en avez dans les familles. Donc, en fait, ce n'est pas lié simplement au fait de la pauvreté. Ça, c'est une hypocrisie d'évoquer des éléments de souffrance en disant qu'ils le font parce qu'ils sont en guerre, parce qu'ils sont... Non, c'est que les gens qui sont dans la pauvreté, les gens qui ont un peu plus de force, le koulouna, qui commettent ça, c'est parce qu'ils prennent prétexte sur une situation qui est là. Les rapports sociaux des sexes sont des rapports de pouvoir. Face à une femme, un homme se croit toujours plus fort, et donc elle peut agir dans telle ou telle circonstance, prenant prétexte de ce pouvoir-là, il abuse de la femme. Donc il faut régler ça, et pour le régler, le gouvernement a mis en place la politique nationale genre. C'est que dès lors qu'on va arriver
à mettre en action les plans d'action de la politique nationale, genre, qui est un plan, bien sûr, à long terme, puis il n'y aura pas de solution seulement aujourd'hui, à ce moment-là, on pourra résoudre, réduire, tant que soit-il, les questions de violence.
Honorable Eve Bazaïba, vous êtes sénatrice MLC et présidente de la commission socioculturelle du Sénat. En début d'émission, vous évoquiez déjà la question de l'impunité. Au-delà de l'impunité, que faut-il pour éradiquer ce phénomène?
Oui, merci beaucoup. Les actions par rapport à l'éradication de ce phénomène doivent être faites, doivent être menées à différents niveaux, de manière conjointe et en combiné. C'est vrai, il faut voir mettre la victime au centre de la préoccupation, parce que c'est l'urgence. Le professeur Mango vous a parlé d'un certain nombre de programmes qui sont mis en place concernant la victime, des actions judiciaires, cliniques, psychologiques, culturelles, mais aussi maintenant, il faut regarder l'œil du côté du violeur. Hein, l'auteur de ces violences, l'auteur peut dire, il peut y avoir un individu, un groupe d'individus ou un système mis en place pour qu'il y ait aussi des actions vis-à-vis de cela parce que ça constitue une cause. J'ai parlé des causes apparentes, il y a aussi des causes non visibles, mais en réalité qui alimentent ces causes, cette cause apparente, la guerre, la pauvreté ou je ne sais pas moi, la société en général. Mais on doit ici placer les responsabilités de chaque compartiment de la population. Je suis au Parlement, je dois faire un effort pour l'application de la loi sur les violences sexuelles, l'application en quelque sorte des contrôles et l'effectivité de l'applicabilité de cette loi-là dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Il y a aussi, par exemple, je peux rapidement parler de la nouvelle structure des Nations Unies sur la femme qui sera bientôt mise en place. Il faudrait que cette structure-là change de stratégie. Au lieu de continuer à gérer les conséquences, elle doit nous aider, cette structure, à nous attaquer aux causes. Il s'agit de l'ONU Femmes. Et l'ONU Femmes, quand elle a parlé de la mise en place des bureaux au niveau des régions d'Afrique, il y aura même des bureaux certainement pour l'Afrique, mais pour la région subsaharienne, moi par exemple en tant que Congolaise, je propose que le siège soit en République démocratique du Congo, de sorte que la secrétaire générale des Nations Unies, qui viendra tout de suite après le secrétaire général des Nations Unies, qui va s'occuper de cette question-là, ait un bureau qui est directement lié à cette question de la République démocratique du Congo pour qu'on voie un peu comment changer de stratégie, comment éradiquer cette forme de violence faite à la femme, notamment les violences sexuelles, même si nous savons qu'il y a plusieurs formes de violence dont la femme est victime en République démocratique du Congo.
Merci honorable professeur Yaouidi, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous vous occupez aussi des sciences de l'éducation à l'Université pédagogique nationale. N'y a-t-il pas, professeur, urgence que l'on ait le programme dont parle le professeur Mango dans le programme scolaire?
Oui, et j'en ai parlé dans une de mes publications, La personne atteinte du sida verra Dieu, et j'ai proposé à ce que réellement, au niveau de l'ensemble de notre structure scolaire, qu'il y ait ce programme qui doit parler de la sexualité, qui doit pouvoir parler du respect de l'autre, du respect de l'autre, et qui doit parler aussi de ses rapports, hein, rapports sociaux entre hommes et femmes. C'est très très important parce que le respect de l'autre, est on ne peut pas exiger à ce que l'autre puisse vous respecter si vous ne les respectez pas. C'est ça. Donc, et nous, ce que nous voulons, que la femme soit protégée. Et la femme doit réellement être protégée. Et elle-même, la femme, doit prendre conscience de cela. Et il ne faut pas qu'elle attende que les autres puissent réfléchir à sa place. Elle doit aussi s'impliquer dans cette démarche-là.
Alors, professeur, je vous demande votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que notre pays, nous devons nécessairement être conscients de la grandeur de ce pays. Nous ne pouvons pas laisser ce pays dans la rue pour que chacun vienne pour ramasser le pays. Ici, on peut le ramasser. Mais nous devons réellement, chacun de nous, se dire que ce pays, c'est mon pays. Ce qui se passe à tel endroit me concerne. Il ne faut pas qu'on se dise « on est à Makambiabata Est, on est à Makambiabata Kuna ». Non. Tout là où tout ce qui est négatif passe, il faut que chaque Congolais soit concerné.
Merci, professeur Yaoundé. Professeur Mango a conclu aussi.
Simplement pour dire que la question des violences sexuelles est aujourd'hui un débat de société, un débat d'actualité. Il faut que les hommes politiques se saisissent de ces débats au lieu de nous discuter article tel de la Constitution, qui discute de cette question pour que nous puissions voir clair dans les responsabilités que les uns et les autres doivent prendre.
Merci, professeur. Honorable Eve Zaïba a conclué également.
Oui, je vais conclure rapidement. Si c'est possible actuellement, l'éducation de nos forces armées et la police nationale, qu'on augmente un peu plus des éléments féminins qui seront tirés dans les opérations militaires, pas seulement pour s'occuper des questions sociales, distribution des médicaments et tout, mais sur le terrain, je crois que s'il y a plus la parité dans les opérations militaires, nos militaires seront éduqués pour savoir que les femmes peuvent aussi être leurs collègues.
Merci, honorable. Cette émission est terminée. Merci de votre attention. Vous pouvez la retrouver sur radiocapé.net ou la réécouter en rediffusion à 14h15 heure de Kinshasa. Mimi Kindou était à la mise en onde, Guy Maté, Kelly Kouté à la réalisation, qui ont travaillé sous la supervision rédactionnelle de Pélé Kipela Mondo. Bob Landou était la coordination technique à l'Aïrou Mouché. Je vous ai présenté cette émission. Bonne suite au programme sur Radio Capi.
Oh, Kati, oh, Kati.